à Rencontre spirituelle aujourd'hui en ce 7 janvier. C'est ma fête patronale, c'est la fête de Saint-Raymond de Peignafort, un dominicain, qui a aussi été le cofondateur de l'Ordre de la Merci pour s'occuper des musulmans. C'était un docteur en droit civil et en droit canonique, et je vous parlerai un jour de lui. Une autre année. C'est aussi l'anniversaire du décès d'une Québécoise que j'ai beaucoup aimée, Sœur Lucille Roy, qui est décédée il y a 3 ans, en 1994, un 7 janvier. Et cette sœur de la congrégation de Notre-Dame, de son nom de religion, Sœur Sainte Lucille du Sacré-Cœur, mais que j'ai connue sous le nom de Sœur Lucille Roy, et qui est morte assez jeune, même pas 70 ans, et qui était, à mon avis, une sainte. Je lui confie cette émission afin qu'elle m'inspire. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vais vous parler aujourd'hui de Charles de Condran. C'est un des personnages les plus importants de la spiritualité française, un des hommes auxquels on doit le plus pour l'approfondissement de notre spiritualité et de l'approfondissement de notre foi. C'est lui qui est à l'origine de la formation plus profonde des prêtres, de la réforme du clergé. C'est un homme exceptionnel, Charles de Condran, qui a vécu de 1588 à 1641, un Français. Il est mort donc le 7 janvier 1641. Il était encore jeune. C'était le premier successeur du fameux cardinal de Bérulle, le fondateur en France de l'oratoire de Saint-Philippe-Néri. Je vous ai déjà parlé de Saint-Philippe-Néri. Vous aviez beaucoup aimé cette émission de ce saint joyeux, ce saint italien qui a vécu à Rome et qui a fondé l'oratoire, c'est-à-dire une organisation de prêtres qui pratique l'oraison et qui prie. Et l'oratoire a attiré en France, au siècle dernier, le cardinal Newman, le fameux anglican qui s'est converti au catholicisme et qui est devenu cardinal. Il était oratorien. J'ai bien connu et reçu chez moi l'un des plus grands Chinois convertis au catholicisme, malheureusement décédé maintenant, et qui était oratorien aussi. Il est donc devenu premier successeur, Charles de Condran, à la tête de l'oratoire en France. Il a surtout eu le mérite d'être, tout le monde s'entend là-dessus, un très grand maître spirituel. Un initiateur mystique authentique, et dont l'influence, je vous le répète, a été déterminante dans l'Église de son époque, et particulièrement, évidemment, de l'Église de France, et par conséquent, par ricochet, sur la nôtre. Cette influence s'est exercée principalement par des conférences spirituelles, et auprès de nombreux dirigés qu'il avait. Il a dirigé entre 1630 et 1640, un an avant sa mort, tout ce qu'il y a de saint dans Paris, selon Jean Delumeau, l'auteur très connu aujourd'hui, Jean Delumeau, qui a écrit de nombreux ouvrages. Quand cet historien affirme cela, il sait ce qu'il dit. Il dirige entre 1630 et 1640 tout ce qu'il y a de saint dans Paris. C'est lui qui oriente Jean-Jacques Ollier vers la fondation des grands séminaires. Quand on va au grand séminaire de Montréal, en haut de l'escalier principal, devant nous, on a un buste de Jean-Jacques Ollier, qui est l'un des cofondateurs, si on peut dire, de Montréal. C'est lui auquel on doit l'orientation de la doctrine spirituelle du fondateur de Saint-Sulpice. Car cette doctrine spirituelle, qui date aujourd'hui, mais qui était très belle à l'époque, doit beaucoup à Charles de Condran. Car Charles de Condran, je vous le rappelle, il a été le directeur, le maître de Jean-Jacques Ollier. À la différence du cardinal de Bérulle, il a fort peu écrit. Ses lettres, toutefois, pour lesquelles on dispose d'une bonne édition critique, nous le révèle à la fois comme directeur spirituel et comme chef de communauté. Voici une lettre qu'il écrivait à un nouveau prêtre. Je vous en lis quelques extraits. Donnez-vous à lui, à Jésus-Christ. Nous devons nous anéantir en cette action et y être purs membres de Jésus-Christ, offrant et faisant ce qu'il offre et ce qu'il fait, comme si nous n'étions pas nous-mêmes. Nous ne saurions nous oublier assez en ce saint ministère, de la prêtrise évidemment, ni dire assez simplement en Jésus-Christ, « Hoc est corpus meum, ceci est mon corps ». Offrez à la divine majesté son hostie en l'honneur de tout ce qu'il est, en action de grâce de tous ses bienfaits à son Église, et même à toute créature. C'est dans le style de l'époque, mais c'est très riche. Si on passe par-dessus le vocabulaire, le style assez beau, on rejoint une pensée mystique très belle. Il continue en disant à ce jeune prêtre, ce nouveau prêtre, je parlais justement à ce jeune nouveau prêtre, Jean-Pierre Couturier de la paroisse Saint-Joseph de Mont-Royal, hier soir au téléphone, offrez-le encore comme l'oraison de l'Église et la vôtre, car Jésus est et contient tout ce que nous pouvons désirer et demander à Dieu. Et notre plus parfaite et fervente prière doit être qu'il soit accompli en nous et en autrui. Il est toute notre vertu en la perfection que nous lui devons demander. En lui, Jésus, les plus saintes intentions de Dieu sont comprises et les nôtres aussi. Vous devez vous souvenir que le sacrifice que vous offrez n'est pas solitairement le sacrifice du Fils de Dieu, mais du chef et des membres de Jésus-Christ accompli qui contient son Église, car il lui communique la prêtrise et elle l'offre avec lui et lui avec elle. Quelle doctrine admirable, je ne sais pas si vous avez tout compris ça, mais il veut dire au fond que nous sommes prêtres avec le prêtre. Nous n'avons pas le pouvoir du prêtre ordonné, mais avec lui nous sommes sacerdotaux. Il communique Jésus la prêtrise à toute son Église. Et nous sommes les membres de Jésus-Christ. Et donc avec le prêtre, nous offrons. Nous offrons à Dieu tout notre amour. Nous offrons à Dieu ce qu'il a de plus précieux, son Fils éternel. C'est ça que tout ça veut dire. C'est une richesse de pensée, c'est très beau. À une époque où peu de gens écrivaient de cette façon. Sa vie à Charles de Condran nous est surtout connue par une véritable biographie psychologique qui est due à Denis Hamelot, son disciple préféré. Hamelot, qui ne devait entrer à l'oratoire, je vous rappelle, c'est pas l'oratoire comme l'oratoire Saint-Joseph, là, c'est une congrégation religieuse, alors qui ne devait entrer à l'oratoire qu'en 1650, donc après la mort de Charles de Condran, après avoir longtemps fait partie du groupe de prêtres qui a gravité donc autour de Condran, il a publié dès 1643 à Paris la vie du père Charles de Condran. Mais on peut dire que la valeur historique de cet ouvrage enthousiaste demande à être vérifiée dans bien des endroits. La seconde édition, en 1657, elle diffère un peu d'ailleurs de la première. De toute façon, de nombreux témoignages de ses contemporains exaltent à l'envi les qualités humaines de Charles de Condran. C'est extraordinaire l'amour qu'on avait pour lui, hein, car il avait une grande pénétration théologique, puis il avait une grande qualité dans la direction spirituelle, ce qui est tellement difficile à trouver aujourd'hui, un bon directeur spirituel. On a pu le présenter comme le plus bel esprit d'homme que Dieu eut créé après saint Augustin. Qui dit ça? C'est l'abbé Henri Brémond, qui a parlé à la fois du génie subtil et de la conscience raffinée, de la curieuse psychologie de Condran. On dit des choses extraordinaires à son sujet. Il a été, en effet, à la fois, Charles de Condran, un excellent théologien, mais malheureusement un bien piètre administrateur parce qu'il était lent à se décider. Mais c'était un mystique enthousiaste. C'est pas un mystique froid, c'est un mystique enthousiaste. Hein? Si son biographe Hamlet le présente comme la plus grande merveille que je puisse comprendre, une vive image de Jésus-Christ, il y a aussi le fameux père Louis Quinet, qui a écrit une approbation pour l'ouvrage d'Hamlet, résume en trois mots ce qu'il pense de Condran. Louis Quinet est très réputé. Hein. Il écrit « Un vrai chrétien, un homme apostolique et un parfait prêtre de Jésus-Christ. » En somme, tout est dit. Quand on dit tout ça d'un prêtre, là, un vrai chrétien, un homme apostolique et un parfait prêtre de Jésus-Christ, je crois qu'on a tout dit. Il est né le 15 décembre 1588, Charles de Condran. Il est né près de Soissons, et en 1600, donc à 11 ans, il a eu une expérience spirituelle très forte de la grandeur de Dieu. C'est une expérience exceptionnelle qu'il a eue. À 25 ans, il est ordonné prêtre. À 26 ans, il est docteur en Sorbonne en 1615. À 28 ans, il entre à l'oratoire, rue Saint-Honoré à Paris. En 1627, à 38 ans, il est confesseur de monsieur, c'est-à-dire de Gaston d'Orléans, le frère du roi. En 1629, après la mort de Bérulle, qui meurt le 2 octobre, Condran est élu supérieur général de l'oratoire le 30 octobre, à la fin du mois. Il a 40 ans. Et il meurt à 52 ans, le 7 janvier 1641. Alors, Charles de Condran était de petite noblesse. Son père était un converti du protestantisme. Il était gouverneur du château royal de Monceau, près de Meaux. Et Charles de Condran était destiné à la carrière militaire, mais son goût le portait plutôt à l'étude, à la prière. Après de bonnes études, dans un bon collège à Paris, au collège d'Harcourt, il a obtenu de son père, comme on disait à l'époque, à se faire d'église, à rentrer dans le clergé, quoi. Puis il étudie en Sorbonne, sous de très grands professeurs avec des noms québécois, André Duval et Philippe Gamache, qui étaient des théologiens célèbres. Puis il enseigne la philosophie une année, se prépare longuement l'ordination sacerdotale qu'il reçoit, comme je vous ai dit, à 25 ans. Et c'est à cette époque qu'il renonce non seulement à son droit d'aînesse, mais aussi à tous les biens dont il aurait pu hériter. Je vous ai dit qu'il a été reçu docteur en Sorbonne tout de suite. Puis il prêche l'Avent à Saint-Nicolas du Chardonnay, cette paroisse occupée aujourd'hui par les disciples de Monseigneur Lefebvre. Il fait assez sensation, il prêche un carême, et comme beaucoup de ses contemporains, il se sent attiré par la vie des Chartreux, par celle des disciples de Saint-François, les franciscains, probablement plutôt les capucins, et puis qui sont si actifs à l'époque, et malgré les espoirs que son professeur André Duval fonde sur lui pour en faire un professeur à la Sorbonne, il va s'orienter vers l'oratoire, où il entre en 1617, puis il devient donc oratorien. Alors revenons donc à Charles de Condran, qui est devenu oratorien, qui est très heureux de son choix, et il parle de l'idéal de l'oratoire. C'est très beau ce qu'il dit sur l'idéal de l'oratoire. C'est l'accent initial qui est mis sur la restauration du sacerdoce par l'enrichissement de la vie spirituelle des prêtres. C'est ça l'oratoire. Il écrit, Charles de Condran, « Les maisons de l'oratoire de Jésus doivent être à l'égard des autres prêtres ce que les monastères sont à l'égard des laïcs. Car, comme dans la décadence et dans le refroidissement de la première ferveur du christianisme, Dieu a inspiré à plusieurs laïcs l'esprit de retraite et de solitude d'où se formèrent les monastères qui ont servi d'asile non seulement aux pécheurs pénitents mais aussi aux plus fidèles laïcs, lesquels, on le sait, se sont retirés pour conserver la pureté de la foi, de la religion et des mœurs du christianisme, et excités par leur exemple la tiédeur des laïcs imparfaits. » Vous savez, c'est tous ces laïcs là, qui, en Égypte, se retiraient dans le désert d'Égypte ou le désert de Palestine, et puis ils vivaient dans des grottes, etc. Mais il dit, « De même, l'ordre sacerdotal étant déchu à plusieurs endroits, de sa première perfection, Dieu a excité, ou c'est-à-dire a suscité, si vous voulez, Saint-Philippe Néri en Italie et le cardinal de Bérulle en France pour former une congrégation de prêtres qui non seulement font profession de tendre à la perfection sacerdotale, mais qui se séparent de tout ce qui peut les en détourner pour être, à l'égard des autres ecclésiastiques, ce que les religieux sont à l'égard des laïcs. Et c'est très beau ce qu'il ajoute. Il ajoute, « Vivant en Jésus-Christ et selon lui, nous serons véritablement ses religieux. Et sans être liés par aucun vœu solennel ou particulier, nous vivrons religieusement. Il ne faut donc pas nous dissimuler à nous-mêmes que l'obéissance doit être prompte et exacte dans une congrégation où l'amour doit commander et l'amour doit obéir. Que la pureté doit être inviolable, où tout est consacré à la pureté divine. Que l'esprit de pauvreté doit régner parmi nous, s'il est vrai que notre cœur ne soit attaché qu'à Jésus-Christ et qu'il rejette tout ce qui n'est pas Dieu. C'est dire que nous devons continuer sur la terre la vie de raison du Fils de Dieu. Honorer par notre état sa vie de religion et faire de l'oraison notre occupation continuelle et principale. L'esprit de raison est donc le propre esprit de l'oratoire, et c'est ce qui nous en donne le nom. Oratoire, oraison, ça va ensemble. Alors, à propos de cette première période de sa vie, on sait que non seulement il a souffert de nombreuses infirmités, les fréquentes, mais surtout que la précocité de son génie, sa prodigieuse mémoire l'ont fait remarquer. Il avait une mémoire extraordinaire. Il prétendait, paraît-il, n'avoir rien oublié depuis l'âge de 18 mois et de savoir un grand nombre de choses qu'il n'avait jamais eu en le projet, le dessein de retenir. Il avait pour la philosophie l'esprit très ouvert et une facilité d'intelligence bien extraordinaire, a-t-on écrit, ainsi qu'un désir si insatiable qu'il y passait les jours et les nuits. Quand il était jeune, il s'intéressait à tout le savoir humain. Charles de Condran s'intéressait aux sciences mathématiques, à la chimie, à l'astrologie, à l'histoire, à la poésie. Et sa mémoire étonnante, sa culture universelle, sa grande facilité d'expression et son goût pour les relations cordiales en faisaient un prêtre exceptionnel. Plus encore que ses qualités exceptionnelles, que ses contemporains soulignent continuellement, on parle de l'expérience spirituelle apparemment décisive que vécut le jeune Charles à l'âge de 11 ans. Je vous en ai parlé. Il se trouva tout en un moment l'esprit environné, écrit-on, d'une admirable lumière dans la clarté de laquelle la divine majesté lui parut si immense et si infinie qu'il lui semblait n'y avoir que ce pur être qui put subsister et que tout l'univers devait être détruit à sa gloire. On nous enseignait ça quand j'étais jeune. Je me souviens quand j'ai décidé d'entrer jeune à Saint-Benoît-du-Lac, bon, du vers 1940. C'était dans le but de me donner à ce Dieu auquel je voulais tout donner. Nous étions formés ainsi. C'est rare aujourd'hui, c'est triste. Nous n'y sommes pour rien. Moi, si j'avais de telles idées, c'est qu'elles me venaient de l'Église. L'Église m'enseignait ça. Les jésuites, quoi. Et les autres. Ce passage de sa vie que je viens de vous lire mérite toute notre attention. Il est vraisemblable que celui qui nous rapporte cet événement, Denis Hamlott, a probablement amplifié à la lumière de la doctrine de son maître la présentation de ce véritable récit de vocation, qui est un peu trop peut-être analogue à tel ou tel texte biblique, mais cette phrase contient comme en germe l'essentiel de l'expérience spirituelle puis de l'enseignement de Charles de Condran, c'est-à-dire la grandeur de Dieu qui ne peut être glorifiée que par la destruction de la créature. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On rejoint Saint Jean de la Croix, hein? On rejoint l'Évangile. Jésus dit des choses comme ça. Faut pas l'oublier. Hein? tout vendre, tout donner, se séparer de tout, dit-il, pour le suivre, pour porter sa croix, etc. Attention, il faut pouvoir comprendre ces choses-là, sans ça, ça devient impossible. Alors, l'affirmation aussi abrupte qu'on trouve, là, qu'il faut détruire la créature, ça peut donner lieu à des interprétations simplistes, là. Mais ça doit se comprendre dans la ligne de la totalité du sacrifice qui aboutit à l'union à Dieu et à sa gloire. En passant par la mort et la mort de la croix, c'est là qu'il faut comprendre ça, et dans toute la mystique traditionnelle de l'Église. Hein, la suite du texte d'Amelot, là, de son biographe, n'est pas moins révélatrice d'ailleurs. Elle nous découvre d'entrée de jeu ce qui sera au centre de la vie de la mission de Charles de Condran, qui se montre ici avant l'heure un vrai disciple du cardinal de Bérulle. Hein. Voici ce texte de son biographe Amelot. « Dans cette vue et dans cet amour de la beauté du sacrifice de Jésus-Christ, Dieu mit dans son esprit deux dispositions bien différentes, mais dont l'une prévalait par-dessus l'autre, et la première fut une estime incomparable de la prêtrise. Oui, une estime incomparable de la prêtrise, avec un sentiment de son indignité d'y être élevé. Puis la seconde, là, c'était une lumière claire, par laquelle il a connu évidemment que Dieu lui en voulait faire la grâce. Il a entendu alors une puissante parole qui lui dit en son intelligence, « Je veux que tu sois prêtre et que tu me serves dans mon Église. » Et cette voix spirituelle plus remarquable et plus convaincante que si une parole humaine eût frappé ses oreilles, mais ça a rempli Charles de Condran de tant de douceur et d'amour du sacerdoce et de l'Église que toute son humilité, quoique très grande, a été noyée dans l'abondance de la joie. Elle a été vaincue par cette manifestation efficace de la volonté de Dieu. Il s'est prosterné à l'heure même contre terre. C'est ce qu'il a rapporté. Il s'est offert à Dieu avec tant de résolution d'obéir à son dessein, que depuis ce temps-là, il n'a jamais hésité. C'est ce qu'écrit Amelot. C'est très beau. Hein? Et alors, Bérulle, lui, avait pour Condran une grande admiration, puis il va le prendre en 1625 comme confesseur. Hein? Et là, le fondateur de l'oratoire, Pierre de Bérulle, cardinal Pierre de Bérulle, va le charger d'abord d'assurer des prédications et des conférences contre les protestants. À l'époque, c'était comme ça, qu'on appelait les hérétiques. Et Condran s'adonne aussi à la direction, notamment de tel ou tel carmélite que Bérulle lui confie. Il sera confesseur, je vous l'ai dit, de Gaston d'Orléans, le frère du roi. C'est une tâche lourde, là, parce qu'il a fini par obtenir la réconciliation de ce prince, Monsieur, comme on l'appelait, avec le roi. Elle aura lieu à Troyes, d'ailleurs, en 1630. Il va diriger Gaston de Renty aussi. Ce merveilleux personnage qui a participé à la fondation de Montréal, Gaston de Renty, avec qui il travaille à développer la compagnie du Saint-Sacrement. Oh, la liste est longue de ceux qu'il consulte. Tellement de gens. Il jouera également un grand rôle dans la conversion de nombreux protestants. Et la suite, tout à l'heure, va nous permettre de voir que Bérulle va l'envoyer dès 1618 pour fonder toutes sortes de maisons à travers la France. Puis à la mort de Bérulle, donc le 2 octobre 1629, Condran est auprès de Gaston d'Orléans à Nancy, puis là, il apprend qu'il doit être nommé. Et nous allons voir tout à l'heure comment il va diriger l'oratoire, cette congrégation extrêmement importante, et comment il va devenir, à mon avis, un saint. Ce Charles de Condran, qui est un oratorien, un membre de la congrégation de l'oratoire, fondée par Saint-Philippe Neri en Italie, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la première partie, eh bien, son supérieur, à un moment donné, là, le cardinal de Bérulle, l'envoie dès 1618 pour fonder une maison oratorienne à Nevers, où est enseveli qui? Bernadette Soubirous, la voyante de Lourdes, puis où son corps est parfaitement conservé. Puis ils font celle de Langres en 1619, l'année suivante, celle de Poitiers en 1621. Et puis, en 1624, il va diriger le séminaire de Saint-Magloire, avant d'être appelé à la maison mère de Paris, des oratoriens, qui est sur la rue Saint-Honoré. Il va là en 1625. C'est pour vous dire qu'il c'est quand même un mystique qui est capable de faire des choses concrètes. Donc, je vous avais dit qu'à la mort de Bérulle, le 2 octobre 1629, Condran est auprès de Gaston d'Orléans-Nancy. Et l'élection du successeur de Bérulle a lieu très vite, dès le 30 octobre, le même mois, hein, sans doute pour éviter une intervention du cardinal de Richelieu. Alors, Charles de Condran accepte qu'avec regret la nomination, seulement le 21 novembre, trois semaines plus tard. C'est à contre-cœur, hein, qu'il accepte cette responsabilité immense. Il commence par refuser donc la charge de visiteur des Carmélites, en partie parce qu'il est convaincu que la vocation de l'oratoire, des oratoriens, c'est de travailler à rétablir dans le clergé l'esprit ecclésiastique. L'esprit ecclésiastique, entendons-nous, ça ne veut pas dire d'en faire des ecclésiastiques dans le mauvais sens du terme, au contraire, d'en faire des vrais prêtres, des prêtres dévoués, des prêtres qui savent confesser, célébrer l'Eucharistie, diriger les âmes, qui savent transmettre le message de l'Évangile, rendre les laïcs toujours de plus en plus saints, et des citoyens de plus en plus justes, et des pères et des mères de famille, et des enfants et des adultes qui sont vraiment des chrétiens. C'est ça, les prêtres. Alors il s'efforce, Charles de Condran, de décharger ses prêtres de la direction des religieuses pour qu'ils soient plus disponibles pour les missions, comme il dit, et pour les séminaires. Les missions, c'est l'organisation de plusieurs prêtres qui partent en mission pour prêcher. D'ailleurs, il a écrit une belle lettre à un missionnaire de l'oratoire, vers 1637. La formule du début, d'ailleurs, de sa lettre, c'est la prière de M. Ollier, dans un sens. Puis, il établit ces missions-là dans un sens très, très, très centré sur le Christ. C'est très christocentré. Alors, il commence ainsi. « Je supplie Jésus-Christ, notre Seigneur, de vivre en vous, en la perfection de ses voies, V-O-I-E-S, en la plénitude de sa vertu et en la sainteté de son esprit. » Évidemment, c'est le style de l'époque. Je dirais, moi, aujourd'hui, je demande du fond de mon cœur à Jésus-Christ, notre Seigneur, de vivre au tréfonds de votre cœur, dans toutes ses perfections, dans toute la plénitude de ses grâces, et dans la sainteté de son Esprit Saint. Ça serait peut-être plus clair pour nous aujourd'hui, puis encore. Je rends grâce, ajoute Charles de Condran, en écrivant ce missionnaire dans le sens des missions parmi les gens des environs de Paris ou de France. Je rends grâce à notre Seigneur de tout mon cœur, du succès qu'il vous a donné en votre mission. C'est un témoignage qu'il a agréable que vous le serviez en cette sorte d'occupation. Alors, les visites, néanmoins, pour être bien chrétiennes, ne doivent pas être continuelles. Le Fils de Dieu se retirait souvent à son Père. À son Père, c'est drôle, hein? Se retirait souvent en prière, mais à son Père. Tantôt sur les montagnes, tantôt dans les déserts, quoiqu'il n'eût pas le besoin que nous pouvons avoir de se renouveler en l'Esprit de Dieu et de réparer ce que le temps et l'occupation extérieure peut avoir dissipé du fond intérieur. En somme, Jésus n'était pas troublé dans son fond intérieur, dans son... C'est le style. Alors, il ajoute, il faut avoir pour parler et agir avec Dieu. Il a voulu, en cela, faire voir ce que nous avions à faire. Pour ça que Jésus priait comme ça. Mais aussi parce qu'il aimait son Père, parce qu'il voulait rentrer dans son humanité, dans ce contact profond, séparé des autres, dans leur raison. Parce qu'il aimait par-dessus tout son Père d'un amour infini et total et entier et éternel. Il a voulu, dit donc Charles de Condran, en cela faire voir ce que nous avions à faire. Et comme il est à l'origine de la mission évangélique, il y a 2000 ans, il en a voulu aussi être la loi et la règle de perfection. Il a dit, « Sic ut misit me pater, ego mit tovos. Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. » Et Charles de Condran termine en disant la charité qu'il nous a laissée et qui doit être la vie des vraies missions regarde Dieu plus que le peuple, et le peuple par l'amour que nous puisons en lui. C'est pourquoi il faut parfois vaquer à Dieu seul parce qu'il est notre Dieu, et que notre amour le regarde par-dessus toute chose, et que nous lui devons nos principaux devoirs, et parce qu'il est le commencement et la fin de tous nos exercices, et qu'en lui nous devons puiser ce que nous avons à faire pour sa gloire et le référer à lui, et comme lui rendre quand il est accompli. C'est un style un peu difficile, mais on voit jusqu'à quel point il aime Dieu, puis il aime Jésus-Christ. Il est tout entier consacré. En 1631, il veut renoncer à sa charge de responsable de la congrégation. Il convoque une nouvelle assemblée des 71 maisons. C'est grand maintenant. Ça vient d'être établi en France. Ils sont déjà 71 oratoires et son élection est confirmée et les caractéristiques de l'oratoire sont rappelées comme suit. On dit, les pères ne sont pas liés par les vœux ordinaires de la religion. Ce serait une congrégation purement ecclésiastique et sacerdotale. Ils se veulent religieux de Dieu, comme le précise Condran dans un texte qui commente la bulle d'institution de l'ordre que je vous ai lu. Et Charles de Condran prend comme vicaire général le père Bourgoin. C'est le plus ancien oratorien. Il avait présidé l'assemblée d'octobre 1629, il y a déjà un bon bout de temps. Alors il publie, d'ailleurs il va publier, lui, les œuvres de Bérulle, qu'il fera précéder d'une très belle préface. Bourgoin est très réputé, le père Bourgoin. Un jour peut-être, j'en parlerai-je dans quelques années. En 1634-1638, il y a des assemblées générales au cours desquelles Charles de Condran veut se démettre. Alors il s'enfuit en 1634. Il s'enfuit un peu comme le curé d'Ars s'est déjà enfui de sa paroisse, hein, il n'en pouvait plus. Et d'autres, comme ça, dans l'histoire de l'Église, des grands saints s'enfuient à un moment donné, on pourrait dire, l'éloge de la fuite, hein, le titre d'un volume très connu. Alors il s'enfuit en 1634, puis il n'accepte en 1638 que sur la menace de son confesseur de lui refuser l'absolution. Alors malgré ses protestations d'humilité, bien, il sert l'oratoire de toutes ses forces. Il en précise l'esprit et l'organisation. Il prend en charge 9 résidences nouvelles, 2 paroisses, 6 collèges, dont celui de Juilly, le fameux collège de Juilly, en 1639. Puis, il a constamment, quoi, le souci des missions. Puis, il entretient une correspondance abondante. Et là, le 7 janvier 1641, il meurt d'une manière très chrétienne et sacerdotale, dont les contemporains ont laissé d'émouvants témoignages. Je vais passer tout d'abord au témoignage, et tout à l'heure je vais vous raconter un peu son décès. « Imaginez-vous, écrit Nicolas Goulas dans ses mémoires, à propos de Condran, « imaginez-vous le plus bel esprit et l'âme la plus noble de tout le monde. » Charles de Condran possédait tous les arts et toutes les sciences. Il en avait les secrets les plus cachés et des mystères de la nature, je vous avais dit qu'il s'intéressait à la chimie, pas à toutes ces choses-là, hein? Et des mystères de la nature, il n'ignorait rien de ce qui peut tomber en la connaissance des hommes. Il raisonnait comme Salomon, depuis le cèdre jusqu'à l'hysope. Il parlait aisément et bien et écrivait de même. Vous voyez le style, c'est hyperbolique comme on dit, c'est un peu exagéré. Mais ça n'empêche pas qu'on l'admirait énormément, énormément. Son biographe, Hamelot, souligne de son côté qu'il avait l'esprit si agréable qu'il n'était rien de plus attrayant que sa conversation. Il savait 1000 choses divertissantes qu'il disait à dessein de préparer les esprits aux matières sérieuses, donc il avait le sens de l'humour. Il savait 1000 choses divertissantes qu'il disait à dessein, ou dans le but, si vous voulez, de préparer les esprits aux matières sérieuses. Et son biographe, Hamelot, ajoute, « Je remarque maintenant qu'il se jouait d'ordinaire dans ses entretiens familiers. » Il se jouait, ça veut dire qu'il s'amusait, qu'il blaguait, disons qu'il blaguait, faisait des bonnes farces, quoi. Mais, ajoute Hamelot, il le faisait avec une telle innocence que son esprit, ni celui des personnes à qui il parlait, n'en était jamais dissipé. Il ne peut pas des grosses farces, c'est pas le samedi de rire. Et au contraire, ajoute Hamlet, cette gaieté toute simple et toute naïve est semblable à celle des enfants, ouvrait l'esprit à tous ceux qui le voyaient et les disposait insensiblement à la piété. C'est un très beau témoignage sur l'humour, la gentillesse, la bonté de cet homme. Alors Nicolas Goulas, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dit dans la même ligne, lui, sa conversation était si douce et si agréable qu'on ne s'en séparait pas que charmé, charmé. Il aimait à rire durant l'heure de la récréation. Et si ses discours, alors, ne portaient pas si droit à Dieu, c'est-à-dire ne parlaient pas que de Dieu, là, il détachait toujours de la terre. Alors, ses discours, sa conversation, ses paroles, nous arrachaient un peu à la terre. Il ajoute, mais quand il tombait sur les matières de piété, il semblait avoir été instruit par les anges. On a une façon d'écrire qui sont assez surprenantes. Quand il parle du sacrifice et de l'anéantissement, dans la vie du père Charles de Condran d'Hamelotte, il y a un passage extrêmement intéressant, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du besoin d'anéantissement dont parlait Charles de Condran. Bien, il dit, il suffit de faire connaître que sa plus vive grâce est celle qui marque davantage la voie par laquelle Dieu s'appliquait son âme très pure, c'était celle du sacrifice, c'était l'amour, quoi. Écoutez bien ça, c'était l'amour de la sainteté et pureté de Dieu. Charles Condran était passionné d'un amour profond pour la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, comme une lumière blanche, immense, infinie. Il ajoute, c'était le désir de son propre anéantissement aussi, pour glorifier ses divines perfections. C'était l'esprit de mort à la vie d'Adam, c'est-à-dire l'esprit de mort à la vie de l'homme ordinaire qu'on est là, puis au monde ordinaire, il ajoute, c'était la religion continuelle, c'est-à-dire l'oraison continuelle, si vous voulez, et la société avec Jésus-Christ hostie. Il avait une très grande dévotion au Saint-Sacrement. Et Hamlet ajoute, il parut assez à sa conception et à sa naissance que Dieu l'avait destiné à cette participation du sacrifice de son fils. Vous avez vu qu'à 11 ans déjà, il était enveloppé par le sens de la présence immense de Dieu. Et déjà très jeune, son amour pour l'Eucharistie était très grande, et toute sa vie a été nourrie ainsi de la présence de Dieu comme immensité divine et très bonne, et la présence de Dieu toute petite et apparemment innocente d'une simple hostie, où Dieu se fait nourriture, il surgit dans le temps et l'espace entre les mains du prêtre, surgit à nos yeux pour se donner à nous. Quelle différence, au fond, entre l'immensité de Dieu que l'on prie à la messe, Dieu notre Père, que l'on acclame au plus haut des cieux, et Dieu qui se fait nourriture en son Fils, tout petit, du pain. C'est tellement beau, cette foi immense de l'Église. Et ça portait le Père Charles de Condran à comprendre que le sacrifice de la messe, nous entraînait vers l'anéantissement qui nous fait vivre de toute la présence de Dieu. Mais ce n'est pas un anéantissement de notre personnalité, c'est un anéantissement de ce qui fait notre stupidité. Charles de Condran est mort dans des sentiments typiques de son époque. Il semble bien qu'il ait su, comme par révélation, et qu'il allait vraiment mourir. En tous les cas, il le sentait jusqu'au tréfonds de son être, puisque M. de Vendôme lui demande d'aller, comme on dit, au zoo, là, pas au zoo, comme aux jardins zoologiques, mais au zoo, E-A-U-X, pour sa santé, d'aller prendre, quoi, des bains d'eau spéciales. Et puis, Charles de Condran lui dit que ce serait bien inutile, parce qu'il ne passerait pas les mois qui s'annoncent, il passerait pas l'hiver. Alors il se voit attaqué d'une fièvre continue. Il souffre d'une inflammation du poumon. Il se recueille plus que jamais en Dieu. Il fait ce qui est bien important de faire une fois ou deux dans sa vie, une confession générale. Alors évidemment qu'il demande les sacrements. Son désir, bien, c'est de se confesser devant toute sa congrégation de l'oratoire. L'oratoire de Jésus fondé, je vous le rappelle, par saint Philippe Néri. Et il veut faire une amende honorable, comme on disait autrefois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire s'excuser, demander pardon. C'est ça que ça veut dire. Et il veut recevoir aussi la communion à genoux à la porte de sa chambre, comme on reçoit son Seigneur, quoi. Le rencontrer à la porte de sa chambre, à genoux. Et ça lui est pas permis, évidemment. Alors il se contente de se reconnaître là publiquement comme un pécheur. Il le croyait sincèrement au fond de son cœur, comme bien des saints. Il se considérait comme le plus grand pécheur du monde. Et il se considérait même comme le membre le plus indigne de sa compagnie. Vous voyez, il y a là des tourments un peu tordus pour nous. En 1996, on dit, il exagère. C'était dans la ligne spirituelle de son époque. Il y a une teinte peut-être de jansénisme là-dedans, mais il y a aussi une teinte peut-être qui nous vient de l'imitation de Jésus-Christ sous certains rapports. Et d'ailleurs, de cette prière que l'on dit à la messe, « Je suis indigne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Nous sommes toujours indignes. Alors il se trouvait, lui, très indigne. Il souhaitait pour cela, c'est un peu absurde d'être exposé sur une roue après sa mort. Il voulait que ça montre à ceux qui le verraient l'horreur du mal, par la crainte du supplice. On voit là des choses pénibles. Je n'aime pas ce que je suis en train de raconter, je les raconte parce qu'on les dit. Mais c'est pour montrer que notre religion a fait de grands progrès depuis ce temps. Nous nous sommes débarrassés de ces sentiments exagérés. Alors, il est accablé à un moment donné de souffrance physique intérieure et aussi de tourments intérieurs légers. Un peu, ça arrive souvent avant de mourir, ça, c'est pas spécial. Mais il adore profondément, étant dans cet état-là, le délaissement puis l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani et l'agonie de Jésus sur la croix. Il s'abandonne entièrement à toutes les rigueurs de la mort. Il s'offre en même temps à porter, c'est assez spécial, les peines du purgatoire, s'il le faut, jusqu'au jour du jugement. Il est prêt à rester au purgatoire très longtemps, car il proteste qu'il en est... Il est très digne du purgatoire, il est indigne d'entrer au ciel. Alors, il a des tourments avant de mourir. On voit, son âme est trop délicate. Il y a une hypertrophie de sa bonté. Mais il se retourne finalement vers la grande miséricorde de notre Seigneur. Et il espère vraiment échapper à tout cela. Et il récite les prières de Job qu'il aimait. « Qui est-ce qui me fera cette faveur que j'ai demandée, que celui qui a commencé à m'écraser m'achève ?» Et puis, il demande à Dieu finalement de le recevoir. Et il rend paisiblement son esprit finalement, il trouve la paix. Et il rend son esprit entre les mains de son Créateur, donc le 7 janvier 1641. Un jour après son décès, son visage redevient aussi vermeil qu'il avait été pendant sa vie. Et c'est exactement le cas de sœur Lucie Leroy, dont je vous ai parlé au début, et dont c'est le 3e anniversaire du décès aujourd'hui, à l'infirmerie des sœurs de la congrégation Notre-Dame, à la Villa Maria. Sa figure était d'une beauté. On n'aurait jamais dit qu'elle était décédée de cancer. Elle était d'une grande beauté. La voix de tout le monde, aussi bien les grands et les petits, a porté témoignage de la bonté de Charles de Condran. Le roi même lui fait de grandes louanges. On dit que beaucoup de gens se sont convertis au moment de sa mort. Et beaucoup de personnes aussi ont été délivrées de leurs peines intérieures en l'invoquant. Et quantité de pauvres gens ont reçu des guérisons de leurs maladies, même corporelles, par son secours. Déjà, il rayonnait, et peu de temps avant sa mort, et comme une sorte de testament, Charles de Condran avait laissé entendre à Jean-Jacques Ollier et à ses compagnons qu'ils auraient à fonder un séminaire. Et Charles de Condran dirigeait Jean-Jacques Ollier depuis 1634 sur le désir et à l'instigation de la fameuse mère Agnès de Langeac, dont un jour je vous parlerai. Et c'est lui qui a détourné Jean-Jacques Ollier de l'épiscopat en lui disant « Notre Seigneur, ayant résolu de se servir de vous pour un grand dessein », c'était de fonder le séminaire. Et Condran avait insisté auprès de Saint-Vincent de Paul pour que sa congrégation de la mission, comme on les appelle les lazaristes aujourd'hui, s'occupe aussi des grands séminaires. Mais le général de l'oratoire, Charles de Condran, s'était montré très discret sur ce grand dessein. Il disait « Les affaires de Dieu se conservent dans le secret de son esprit ». Alors il y a eu un temps de maturation. Mais l'héritage de Condran comporte aussi tout un corps de doctrine spirituelle qui correspond à la foi, à sa propre expérience mystique, à son enseignement. Ça a rejoint Saint-Jean-Eudes aussi, Jean-Jacques Ollier, et on retrouve les pensées de Charles de Condran dans les œuvres de Saint-Jean-Eudes comme « Vie et royaume de Jésus ». Il y a des textes magnifiques sur l'idée du sacerdoce et du sacrifice de Jésus-Christ. Charles de Condran disait « Le sacrifice répond à tout ce que Dieu est. Il est un devoir essentiel de la religion. Comme la religion envers Dieu est une obligation que la créature spirituelle porte gravée dans le fond de son être. Ainsi, nous sommes des êtres offerts à Dieu. » Et c'est dit aujourd'hui dans le beau texte de la première lettre de Saint Jean à la messe, « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. Et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Car Dieu est amour. Et voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Et dans l'Évangile, il est dit, Jésus, voyant une grande foule de gens sur le bord du lac, fut saisi de pitié envers eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Ainsi a fait Charles de Condran.